Les pêcheurs sont passés à l'action ce matin. Ils ont bloqué deux ferries sur le port d'Ajaccio et empêché le pétrolier de ravitailler l'appontement Saint-Joseph. Ils demandent à l'État des mesures pour mettre un terme au surcoût du carburant professionnel, mais aussi le versement d'aides prévues pour la profession. Des perturbations ce matin encore dans les lycées de Corse, en soutien notamment au mouvement des Gilets jaunes, mais pas seulement. Plusieurs établissements seraient donc concernés. Et puis dans ce journal, on revient également sur les conséquences de la tempête de vent hier. 600 foyers sont toujours privés d'électricité à 7h. La solution pourrait être à terme l'enfouissement des lignes. Nous reviendrons également sur ce qui a poussé les autorités à placer hier la Corse en vigilance rouge.
Le journal de la mi-journée vous est présenté par Caroline Philippi. Bonjour.
Bonjour, et on débute donc cette édition avec la mobilisation des pêcheurs contre le surcoût du carburant professionnel et pour le versement d'aides prévues pour leur profession. Les prud'homies de Corse ont donc mené une action ce matin sur le port d'Ajaccio. Les pêcheurs ont bloqué deux ferries ainsi que le navire avitailleur en carburant au quai Saint-Joseph. Des pêcheurs qui ont été reçus en préfecture avec donc plusieurs revendications liées, Jérôme Souzigne, aux conséquences de la tempête Adrian et aussi au prix du gasoil.
Oui, c'est la première des revendications, elle est ancienne, le différentiel du prix du gasoil. Selon les pêcheurs, c'est 20 à 30 centimes de plus que sur les ports du continent. Sur ce point, la préfecture a répondu qu'un audit global était en cours sur le prix du carburant en Corse. Les pêcheurs ont aussi évoqué les conséquences de la tempête récente, la tempête Adrien. Selon les prud'homies, les aides débloquées pour la trentaine de pêcheurs dont le matériel a été détruit ne suffisent pas car elles ne prennent pas en compte l'activité de pêche qui a été impactée dans son ensemble, citant notamment le manque à gagner suite à des ventes de poissons à 1 euro le kilo après l'ouverture accidentelle des viviers de la Parate. Les 70 pêcheurs de l'île constatent aussi que certaines aides européennes ne sont pas utilisées alors que des baisses de charges sont et ont été encore réclamées aujourd'hui. Après la rencontre en préfecture ce matin, retour au calme, on a levé les blocages. Certains engagements ont été pris avec une nouvelle rencontre prévue en janvier et la promesse, selon les prud'homies, du déblocage d'une aide qui concernera l'ensemble des embarcations.
Le mouvement des Gilets jaunes se poursuit en Corse de manière disparate, mais surtout dans les lycées où des actions ont été menées ce matin. Il y a eu des perturbations dans les établissements, un peu partout, notamment à Ajaccio et Bastia. Même si cela se passe généralement dans le calme, il y a quelques incidents qui sont à déplorer, Olivier Castel.
Oui Caroline, des feux de palette, notamment devant le lycée Jean Nigaud, lié à Bastille, à incendie allumé, semble-t-il, par des individus sans gilet jaune. Les pompiers ont éteint le sinistre. Le lycée Jean Nigaud serait toujours bloqué à 7h06. 8 autres lycées bloqués, tous partiellement, précise le rectorat ce matin. Le lycée Laetitia Ayatch, avec une quinzaine de lycéens devant les grilles, il laisse, cela dit, entrer les élèves de BTS et de prépa, précise-t-il. Ils disent attendre les déclarations du président Emmanuel Macron, prévues ce soir, pour décider de la suite à donner à leur mouvement. Ils ne se réclament en outre d'aucun syndicat. Toujours à Ayaccio, le lycée professionnel Jules Antonini a été temporairement perturbé ce matin. Du côté des collèges, enfin, les collèges de Lille, Zoula et du Fiumorbo étaient eux aussi concernés par ces mouvements. Plus rien devant les grilles de ces collèges à cette heure, cela dit, même si certains accès peuvent encore rester barrés aux voitures.
Après les incidents de samedi à Bastia, les dégradations commises dans le centre-ville, 8 personnes sont toujours en garde à vue dans les locaux du commissariat. Rappelons qu'un policier a été blessé à une jambe. L'enquête porte sur une participation à un attroupement armé, dégradation volontaire et violence volontaire aggravée. Retour donc dans ce journal sur les conséquences de la tempête de vent d'hier. À l'heure actuelle, 600 foyers sont encore privés d'électricité ce matin. Les équipes d'EDF ont repris leur travail tôt pour réparer les lignes endommagées. Et EDF promet qu'à 18h, 100% des clients seront réalimentés. C'est en fait la Castanitsa, le Fiumorbo, la Costa Verde et l'Altarocca et l'extrême sud qui sont plus particulièrement concernés. À chaque tempête, il faut le dire, le réseau EDF est toujours fortement impacté. Les lignes sont souvent arrachées sous l'effet des rafales. Et l'une des solutions pour EDF et pour les clients, ce serait d'enfouir les lignes. Elles seraient donc protégées des tempêtes de vent, mais aussi des chutes de neige. Michael Méchali, responsable de la communication d'EDF, nous indique que par endroits, cela a déjà été fait. Des investissements ont été mis en place pour moderniser le réseau.
C'est un travail qui est déjà fait, hein. C'est un travail qui est déjà engagé. Évidemment, on ne peut pas enfouir partout les réseaux. Donc il y a un gros travail qui est effectué dans certaines régions. Évidemment, il y a des priorités qui sont mises sur ces investissements, les zones les plus touchées. On peut remarquer par exemple que le Cap Corse n'a pas du tout été ou très très peu impacté par des coupures d'électricité ces dernières crises, ce qui montre bien que les travaux qui ont été faits, pas que l'enfouissement, hein, des travaux de renforcement des réseaux, fonctionnent. Donc oui, il y a dizaines de millions d'euros qui sont investis tous les ans dans les réseaux, et le renforcement, l'enfouissement en fait partie.
Et autre conséquence du mauvais temps, le match du 8e tour de la Coupe de France de football, qui n'a pas pu se jouer hier à Fouriagne entre le Sporting et Saint-Omer, est finalement reporté à samedi prochain 19h. Rappelons que ce soir aura lieu le tirage au sort des 32e de finale de cette Coupe de France, avec cette fois l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Si le Sporting se qualifie samedi, il rejoindra le GFCA. Cela dit, le bilan de cette tempête a été relativement léger, même si l'île a été placée en vigilance rouge. On a relevé 176 km/h à l'île Rousse, 188 dans le Cap Corse, 165 dans la région de Porto Vecchio, des valeurs cinquantennales qui ne sont plus si rares que ça. 2018 a été en tout cas une année d'un point de vue météo très tempétueuse. Patrick Rebilloux, chef du Centre Météo France à Ajaccio, était ce matin l'invité à 8h10 d'Alexandre Sanguinetti.
Je trouve que 2018, c'est quand même une année avec beaucoup de tempêtes. On a commencé, rappelez-vous, par Eleanor, Fionn, après on a eu Adriane. Donc j'espère que ce ne sera pas tous les ans comme ça, mais j'étais vendredi invité par le CPIE à la foire Bocconiane pour parler de l'adaptation au changement climatique, et par l'adaptation il y a peut-être aussi nos comportements qui devront changer par rapport à un climat sans doute moins clément. Voilà.
Vous confirmez que la fréquence de ce type d'épisode peut s'accroître, que leur violence aussi?
En tout cas, alors faut pas tout mélanger, je veux dire, du point de vue précipitation, c'est très net, ça a déjà augmenté, et ensuite vu la chaleur qui s'accumule dans l'atmosphère, on aura des phénomènes précipitants plus intenses. Sur les vents, ce qu'on note sur l'Atlantique Nord, c'est que très clairement il y a un signal d'augmentation du nombre de ces tempêtes. Donc oui, et les travaux du GIEC montrent l'accroissement des phénomènes extrêmes aussi.
Et ce matin, dans notre grand angle, nous sommes revenus également sur cet épisode météo d'hier. Comment les autorités ont-elles fait face à cette situation et quelles conséquences pour l'activité économique, avec notamment d'importantes manifestations qui ont dû être annulées hier? Un grand angle signé Christophe Iudicelli.
Des rafales de vent de 130 à 150 km/h un peu partout en Corse et des pointes frôlant les 190 km/h enregistrées dans le Cap. L'alerte rouge pour vent violent a été déclenchée dans l'île. Patrick Rebilloux, directeur du centre météorologique d'Ajaccio.
Sur la Corse, il y a un phénomène supplémentaire, c'est d'accélération orographique, c'est-à-dire l'accélération du vent, du relief. Des rafales qui descendent, en gros les pentes en quelque sorte, qui s'accélèrent. Ça implique un vent très turbulent et voilà, c'est pour ça que la situation est conséquente, quoi, avec du vent fort déjà prévu et accéléré par déferlement sous le vent du relief. Donc c'est pour ça que c'est plutôt la Haute-Corse qui est concernée. On avait des rafales annoncées par les modèles importants. Ça concernait des zones en jeu et une surface importante de la Corse. Donc c'est pour ça que ça a été décidé, la mise en rouge.
Un passage en alerte rouge qui oblige les autorités à prendre des mesures exceptionnelles. Les plans communaux de sauvegarde sont activés. Jocelyne Fazi, présidente de l'Association des maires de Corse du Sud.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prévenus. Les gens, c'est nous, c'est le maire, l'adjoint, et qui sont chargés de faire savoir à la population que nous sommes en vigilance rouge. Restez chez vous, vous risquez pas de recevoir un arbre sur la tête, c'est les arbres, le gros problème.
Pour éviter de se blesser, la population est invitée à rester chez elle. Un arrêté préfectoral a interdit l'organisation des manifestations sportives. Le match de Coupe de France Bastia-Saint-Omer a été reporté. Les manifestations festives comme les marchés de Noël ou encore culturels ont également été annulées. Denis Moretti, le président de la Foire de la Châtaigne de Bogogna.
5h30 le matin, ils m'ont appelé, ils m'ont confirmé le passage en vigilance en rouge. Donc interdiction de se déplacer, toute manifestation vers le public est interdite. Donc on a averti tous nos exposants par SMS. On a rameuté nos bénévoles, des artisans à remballer leur matériel.
Les manifestations du Téléthon ont également été concernées par ces interdictions. Elles seront reportées à plus tard, ce qui n'est pas sans conséquence sur les dons. Catherine Château-Artaud, coordinatrice Téléthon.
Chaque fois que nous reportons une manifestation, nous constatons quand même qu'il y a une baisse de représentation et de remontée de fonds quand même. Hein. C'est un petit peu du réchauffé, entre guillemets, donc les gens sont moins présents, bien qu'ils se mobilisent quand même, hein, puisqu'ils savent que pour le Téléthon, ils répondent la plupart du temps présents, mais mais bon, c'est jamais pareil.
Une alerte rouge qui a également impacté les commerces. Certains d'entre eux sont restés fermés hier après-midi. Côté transport, les chemins de fer n'ont pas fonctionné. De nombreux vols ont également été annulés. Des vents violents qui ont aussi privé de nombreuses personnes d'électricité.
Voilà donc ce grand angle consacré aux conséquences de l'alerte rouge hier météo. Alerte au vent fort. Et puis on va terminer avec l'annonce du Club de la Presse qui reçoit dans quelques instants Monseigneur Olivier de Germay, l'évêque de Corse. Une émission présentée par Pierre-Louis Alessandri.
Il est vrai.
RCFM, le Club de la Presse.
Bonjour et merci de votre fidélité. Bienvenue à Jean-Vitus Albertini de France 3 Corse et à Dilormo Padoani de Corse Matin. Notre invité aujourd'hui est Monseigneur Olivier de Germay, évêque de Corse. Merci Monseigneur d'avoir répondu à notre invitation.
Avec joie.
Alors les gilets jaunes ne désarment pas, même si les violences, compte tenu de la mise en place d'importantes forces de police, quand 89 000 à Paris, ont été moindres, encore que elles se sont décentralisées en province, notamment à Bordeaux, Saint-Étienne, Marseille et d'autres villes, et en Corse, à Bastia. Des centaines de points de blocage ont été enregistrés samedi, même si la mobilisation a tendance à faiblir, la détermination demeure. Quoi qu'il en soit, à ce stade, le problème est politique. Les gilets jaunes ont réussi à entraîner le gouvernement dans un processus de recul. C'est toute la politique sociale qui devra peu ou prou être revue. Les premières mesures annoncées n'ont pas satisfait et l'on attend le discours d'Emmanuel Macron ce soir. Le président de la République a beaucoup consulté ce week-end partis politiques et syndicats, car on peut dire qu'il a échoué dans ses réformes. Il faudra qu'il trouve autre chose, un échec qui pourra se ressentir aux prochaines élections européennes. Alors Jean Vitus, qu'est-ce qu'on attend du discours de ce soir ? Un discours qui réponde notamment aux revendications des gilets jaunes, et d'après ce qu'on en sait, ça semble ne pas être le cas.
Oui, je pense qu'il y a une attente très forte pour un changement de cap, et visiblement, ce n'est pas ce qui est programmé, selon les informations qui sont distillées ici et là par nos confrères parisiens. Mais c'est vrai que la parole, désormais, est aux politiques. Alors, c'est un paradoxe, puisque d'un autre côté, il y a une espèce de rejet de la part de ce mouvement qui est transparti, je dirais, vis-à-vis de la politique et vis-à-vis des hommes politiques, et des structures elles-mêmes. Et on attend aussi, malgré tout, de ces politiques, une réponse. Et la réponse, c'est le premier d'entre eux, évidemment, c'est Macron qui doit la donner. Alors, il y a des réponses ponctuelles, on le sait, sur des revendications bien précises, que ce soit sur les taxes, bon là, visiblement, c'est réglé pour cette année, mais aussi sur la CSG, le SMIG, et plus généralement sur la hausse des salaires. Maintenant, il faut qu'ils répondent aussi à autre chose, c'est sur l'inégalité fiscale qui frappe les gens, sur ce dogme européen, là, avec les 3% des contraintes budgétaires, ça. Je pense que les gens en ont par-dessus la tête. L'avenir des services publics aussi, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'il y a aussi une demande qui vient de la part des territoires. Elle est très importante. Je pense que peut-être c'est masqué par le reste des revendications salariales, mais il y a une volonté aussi en faveur de la décentralisation et de gérer les affaires au plus près, parce qu'ils voient que l'État est très loin, les gens, et qu'il a tendance à les abandonner. Donc ils veulent un retour pour qu'on s'occupe véritablement de leurs affaires. Et puis, globalement, un réajustement de la politique, arrêter cette politique et cette... à travers la personnalité de Macron cette fois-ci, cette espèce de mépris de classe qu'il a développé depuis 18 mois. Ici, on en a eu quand même quelques exemples assez édifiants. Dire s'il arrive à répondre à cela, peut-être qu'il peut sauver ce qui est encore sauvable. Pour l'instant, ça me paraît quand même difficile. Il faut pas que ce soit simplement de la communication, parce que je vois que ce matin, il fait une espèce de grande conférence sociale avec tout le monde, et que ce soir, il fait des annonces. Alors, où les annonces sont déjà prêtes, et finalement, cette conférence avec l'ensemble des partenaires, c'est de la poudre aux yeux, parce que les décisions sont déjà prises, comme il a fait jusqu'à présent. Ou alors, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. On va voir ce soir à 20h, mais je ne pense pas qu'il faille attendre de changement de cap fondamental.
Dilormo Padoani, Jean Vitus le disait, il y a aussi une attente des territoires, mais les territoires, que peuvent-ils faire en ce qui concerne notamment l'élévation du niveau de vie ? Ils n'ont pas ni les moyens ni la compétence.
Exactement. Il y a alors le ministre Le Drian disait le temps des l'a dit hier le temps des territoires est venu. Très bien, mais avec quels moyens, comment? Jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas dans un État fédéraliste et fédéral, donc il est compliqué. Avec la situation que nous connaissons aujourd'hui, il est compliqué de pouvoir entrevoir une liberté soudaine et bienvenue pour les territoires et pour la gestion des problématiques qui relèvent encore des prérogatives de l'État. Vous parliez de l'emploi, justement de la précarité, donc ce sont encore des domaines qui relèvent de l'État. Voilà, après il est difficile aujourd'hui il y a beaucoup d'attentes autour du discours d'Emmanuel Macron. Attention que justement cette attente ne soit pas douchée, cet espoir ne soit pas douché par un positionnement qui demeurerait inchangé. Bon, on voit mal. Il y a eu quelques petits signes. On annule la hausse de la taxe au mois de janvier. Bon, il y a des petits signes, mais qui sont absolument insuffisants et qui ne répondent absolument pas à la préoccupation actuelle. J'ai bien peur que le discours de ce soir soit un énième discours. Je ne sais pas si la classe politique et notamment Emmanuel Macron et son gouvernement ont pris vraiment conscience de l'enjeu.
Non, puis il faut faire attention à une chose, c'est que cet appel-là, ça ressemble quand même à un appel au secours à tous les corps intermédiaires qu'on appelle à l'Élysée en quatrième vitesse. Les présidents des associations, enfin les présidents des associations de régions, de départements, là finalement, tout le monde doit participer. Mais c'est un peu curieux quand on entend un certain nombre d'informations, en particulier, ils verseraient une prime de déplacement pour les gens qui ont besoin d'utiliser la voiture. Mais cette prime de déplacement, elle serait financée par les régions. Déjà, l'État se désengage. Quant au salaire, il dit, bon, le SMIG, pas question de l'augmenter, d'après ce qu'on sait. Mm-hmm. Et en revanche, ils inciteraient les entreprises à augmenter les salaires. Ce qui fait que les salaires, c'est les entreprises, les déplacements, les primes déplacements, c'est les régions, mais l'État dans tout ça. Mm-hmm.
Et on prend le risque de créer encore plus d'inégalités, parce que malgré tout, il doit y avoir une égalité devant l'impôt, une égalité dans la redistribution du revenu et donc une politique sociale égalitaire. Et visiblement, on semble se démarquer sur les entreprises qui reçoivent d'ailleurs de l'argent, 40 milliards, avec le CICE, malgré tout.
Et pas les TPE,
Les
plus grosses entreprises.
Absolument.
Par la seule existence de l'ISF, déjà, l'égalité devant l'impôt n'existe pas.
Absolument. Et déjà. Donc, on verra bien. Quoi qu'il en soit, alors Macron est regardé aussi à l'étranger, et il est aussi critiqué par beaucoup de chefs d'État, et bizarrement, par ceux qui ont eux-mêmes besoin de modifier leur comportement et leur politique, comme Salvini en Italie, Trump aux États-Unis ou Erdogan, mais qui s'en sont donnés à cœur joie. Bon, ils sont quand même un peu malvenu pour donner des leçons.
Quand on en donne aux autres, au bout d'un moment, ils en profitent pour en donner lorsque l'occasion se présente. Hein.
C'est le retour, c'est un retour.
C'est sûr, ce ne sont pas des exemples. Hein.
C'est un retour de bâton. Quand vous voyez Erdogan qui dénonce la violence des autorités françaises, c'est quand même... c'est un pied de nez. C'est un pied de nez, c'est de la caricature. Mais il ose le faire puisque justement, la France, à travers son président et à travers son gouvernement, passe son temps à donner des leçons au monde entier. Et forcément, des leçons, c'est toujours pareil. Hein, dénoncer la violence du régime turc, c'est tout à fait louable et ça s'entend parfaitement. Sauf que c'est toujours pareil. Hein. C'est bien aussi de balayer devant sa porte et de voir aussi qu'il y a une autre forme de violence quotidienne qui est exercée en France. C'est une violence sociale et une violence, on parlait de l'inégalité devant l'impôt. Voilà, aujourd'hui, le pays va très mal.
Alors, Monseigneur, les Gilets jaunes ont-ils raison de combattre la pauvreté, leur pauvreté et les inégalités? Que peut dire l'Église?
Ben, moi, je dirais d'abord qu'il faut prendre en compte ce que manifeste ce mouvement, parce qu'incontestablement, il y a un vrai problème aujourd'hui dans notre pays, avec, ça a été dit tout à l'heure, des inégalités croissantes, une précarité qui ne cesse de progresser. C'est le cas en Corse, hein, si j'ai bien compris, la Corse est une des régions les plus pauvres de France. Donc ça, il faut le prendre en compte. Après, il faut des mesures, oui, certainement, et on attend tous ce que va dire le président Macron ce soir. Moi, personnellement, si vous voulez, je ne crois pas que faire un rose sur le président, sur un seul homme, ça soit la bonne solution. Comme si tout dépendait de lui. Moi, je crois que, bien sûr, et on peut critiquer, c'est pas tellement mon rôle d'ailleurs, telle ou telle mesure, mais je crois qu'il faut prendre un peu de recul. Cette crise, d'abord, elle s'inscrit dans un contexte plus large, qui est un contexte international, la mondialisation, la crise migratoire. Et puis, je crois que c'est une crise de société. Donc, si simplement les mesures qui ressortent, c'est de dire on va augmenter le pouvoir d'achat, je crois qu'il le faut pour les classes les plus pauvres, c'est une nécessité. Mais si c'est la seule mesure, on ne résout rien. Je crois que, il me semble que c'est le président Simeoni qui disait dans un article qu'on nous sommes à la fin d'un cycle. Je crois que c'est un peu ça qui est en train de se passer. Nous sommes dans un système global qui ne fonctionne plus. Un système qui était basé uniquement sur la production et la consommation. Et ce système-là, on croyait qu'il allait rendre les gens plus heureux. En fait, il n'a fait qu'accroître les inégalités. Et surtout, il fait que les gens ont perdu le sens. Les gens se demandent pourquoi ils se lèvent le matin pour aller travailler et fonctionner. Ils ont toujours plus de besoins parce que la société de consommation ne cesse de nous créer des besoins. Mais à un moment donné, tout ça tourne à vide. Donc je crois qu'il faut avoir une vision global, c'est une crise économique, c'est une crise sociale, c'est une crise morale. Et je vous étonnerai pas en vous disant que c'est aussi une crise spirituelle. Donc voilà, je pense que du coup, la démocratie, c'est pas aussi dire c'est que le président qui est responsable, c'est tout le peuple qui est responsable. Je crois qu'il faut changer les mentalités, avoir un autre rapport à la vie. C'est un débat de fond qu'il faut lancer. Au fond, quel monde voulons-nous pour demain ?
Sauf que lui, il s'est présenté à la fois comme un homme du changement. C'était pendant sa campagne présidentielle. Et ensuite, une fois qu'il a été élu, il s'est présenté comme Jupiter. Donc, d'une certaine manière, c'est lui-même qui s'est mis en position de focaliser tous les ressentiments et toutes les oppositions. Parce que visiblement, à part lui, on a l'impression que dans ce pays, un gouvernement dont on ne connaît pas le quart du nombre des ministres, c'est quand même assez étonnant. Quant au Premier ministre, il s'est réveillé maintenant parce que Macron, visiblement, l'a poussé pour qu'il soit en première ligne. Mais pendant les deux semaines qu'a duré le conflit, on ne l'a pas entendu. Donc alors, c'est lui qui focalise aujourd'hui tous ces ressentiments.
Je ne dis pas qu'il soit en dessous de toute critique, etc., bien sûr. Je dis simplement qu'aujourd'hui, si on veut réformer notre société, c'est tout le monde qui doit se sentir concerné. Prenez la question de l'écologie, la crise des déchets, etc. On peut toujours prendre des mesures. Si chacun d'entre nous ne sentons pas concernés, ça n'avance pas. La démocratie, c'est aussi ça. C'est tout le monde est responsable, finalement.
Et d'associer les corps intermédiaires, comme ils ont toujours été faits, et qui ne le sont plus depuis 17 mois.
Il faut quand même faire remarquer, même si on peut dire qu'il y a une responsabilité globale dans l'organisation de la société, notamment sur l'écologie. Il y a une encyclique du pape, Laudato Si, qui dit un certain nombre de choses. Mais malgré tout, en France, celui qui est le patron de tout, c'est le président de la République, c'est les institutions qui veulent ça. Il n'y a pas véritablement un parlementarisme. On met de côté les élus, mais quand on en a besoin, on va à la rescousse pour leur faire supporter. Et ça semble se dessiner un certain nombre de choses dont ils n'ont pas ni les moyens ni la compétence pour le faire. Donc c'est le président de la République qui est, lui, responsable de peut-être trop de choses. Et là, il faut peut-être penser demain à une transformation, une réforme des institutions. Parce qu'aujourd'hui, il est peut-être anormal que tout le monde se tourne vers le président de la République, l'homme providentiel pour tout. C'est peut-être anormal, mais aujourd'hui, c'est comme ça parce que les institutions l'imposent.
L'aspect monarchique de cette Ve République n'était pas fait pour déplaire à... Emmanuel Macron.
Ni aux autres, justement. D'ailleurs.
Ni aux autres. La différence, il s'appuie aussi sur la technostructure qui est revenue en force. Aujourd'hui, qui commande aujourd'hui l'État, c'est le corps préfectoral et c'est l'institution de Bercy. C'est exactement comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et ça, les territoires, les élus locaux, ça sont complètement ignorés dans ce dispositif-là. On verra s'ils vont revenir au premier plan aujourd'hui. Mais pour l'instant, ça s'est passé comme ça depuis l'élection de Macron.
Alors, en Corse, le 18 décembre, il y aura une conférence sociale qui sera organisée à l'initiative de la collectivité. Alors, ces conférences ont été voulues, justement, par Emmanuel Macron. Alors, une conférence identique sera d'ailleurs organisée en Bretagne ce même jour. Mais on le disait tout à l'heure, que peuvent faire les régions, et notamment la Corse, dans quel domaine elles pourraient intervenir pour essayer d'atténuer un peu ce qui tombe sur le dos des pauvres gens. Peut-être intervenir sur les transports, Jean Vitus.
Oui, sur les transports. Bon, le prix de l'avion, le passage entre Nice, Marseille et la Corse va baisser. Mais bon, je veux dire, c'est pas l'essentiel. Sur le prix de l'essence, par exemple, on interrogeait la préfète l'autre jour en demandant si elle avait la possibilité, elle, de bloquer les prix de l'essence, enfin de fixer un prix plafond. Elle dit oui, mais il faut un décret du Premier ministre. On en revient toujours à la même chose. On en revient. Si on veut vraiment, véritablement, alors les prix en France sont libres, mais si on veut véritablement changer les choses de ce point de vue, il faut à ce moment-là une vraie intervention de l'État. Mais dans des domaines où il y aurait du concret. Pas seulement d'aller s'occuper de choses et d'autres qui relèvent des fois de la collectivité territoriale. C'est pas seulement de la politique à ce niveau-là qu'il faut faire.
Et les prix bloqués, c'est le cas dans les DOM, il me semble.
Pour l'essence.
Pour l'essence, bien sûr.
Une décision qui est intervenue au niveau central et non pas par la décision des DOM ou des TOM. C'est certain.
Oui. Mais justement, ce non-agir et ce manque de réactivité du pouvoir central, on en revient toujours à la même chose. Si le pouvoir central est réactif et qu'il répond à un moment donné aux attentes et aux spécificités des territoires, bon, très bien. Il n'est pas question absolument de demander une décentralisation à tout prix. Sauf que ce pouvoir central est un mammouth qui met un temps infini à se mouvoir et à répondre une bonne fois pour toutes aux aspirations locales, puisque et on le voit bien, c'est quotidien. Donc là aussi la contestation est tout à fait légitime.
Vous demandiez, Pierre-Louis, la possibilité d'intervention de la collectivité territoriale. Alors peut-être a-t-elle les moyens concernant les transports, effectivement, sur le passage du fret. Alors ça a déjà diminué, mais pour qu'il y ait une incidence sur les prix à la consommation. Parce que pour l'instant, le fret a diminué. Bon, il se trouve que les distributeurs les gens de la grande distribution sont aussi des transporteurs. Donc, il y a des diminutions de coûts pour eux, mais ça ne se traduit pas pour le consommateur.
Sur les prix, c'est certain.
Non, ça se traduit pas. Non, les prix, non seulement ils baissent pas, mais ils augmentent.
Ils augmentent. Ouais.
Donc peut-être que là.
Non, mais c'est pour ça que je disais que peut faire cette conférence sociale, j'en sais rien, apporter son soutien aux revendications, parce qu'elle ne pourra pas répondre sur le SMIC, elle ne pourra pas répondre sur les impôts, elle ne pourra pas répondre sur un certain nombre de domaines. Monseigneur, on arrive à la fin de notre première partie. Que peut dire l'évêque aux élus du territoire ?
Moi, je crois qu'à chaque fois qu'on prend comme principe de se mettre autour d'une table et de parler, c'est plutôt une bonne chose. Parce que souvent, il y a beaucoup de confrontations et de problèmes qui sont liés au manque de dialogue. Donc, je ne peux que favoriser ce genre d'initiative. Après, comme vous l'avez dit, est-ce qu'elle va régler tous les problèmes ? J'en sais rien. Mais ça sera peut-être l'occasion d'aller mettre son nez dans des choses qui n'apparaissent pas très clairement, des situations de monopole ou autre chose. Donc, je crois qu'effectivement, la question peut paraître assez circonstanciée, mais la question du prix de l'essence et des transports, pour le dynamisme économique d'une île comme la Corse, je crois que c'est une question essentielle. Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui un déficit d'écoute des gens ? de la part des décideurs, des responsables?
Je crois que c'est pas simplement de la part des décideurs. Je crois que c'est un climat général de notre société qui est marqué, c'est pas un scoop, hein, par l'individualisme. Et l'individualisme fait que on est tous le nez dans notre écran et peut-être pas suffisamment à l'écoute les uns des autres. Je crois qu'il faut, comme le dit le pape François, développer une culture du dialogue pas simplement avec ceux qui font partie de notre cercle d'amis, etc., mais aussi avec des gens qui sont différents, qui pensent différemment. Je crois que c'est à partir du dialogue qu'on peut s'enrichir.
Merci Monseigneur, on vous retrouve dans un petit moment pour la deuxième partie. Vous êtes l'invité de ce Club de la Presse. Pour l'heure, c'est le flash d'information avec Caroline Philippe.
Bonjour, on débute avec la mobilisation des pêcheurs contre le surcoût du carburant professionnel et pour le versement d'aides prévues pour leur profession. Les prud'hommes de Corse ont donc mené une action ce matin sur le port d'Ajaccio. Les pêcheurs ont bloqué deux ferries, ainsi que le navire avitailleur en carburant à l'appontement Saint-Joseph. Des pêcheurs qui ont été reçus également à la préfecture. Ils veulent un alignement du prix du gasoil avec celui des pêcheurs du continent. Pour l'instant, il y a un différentiel de 30 centimes par litre. Ils estiment également que les aides débloquées lors de la tempête Adrian sont insuffisantes et ne prennent pas en compte la non-activité des pêcheurs durant la période. Enfin, les pêcheurs de l'île estiment que les aides européennes auxquelles ils ont droit ne sont pas utilisées. De son côté, la préfecture a précisé qu'un audit était en cours sur le prix du carburant en Corse, que certaines aides pourraient être débloquées dans les prochains jours pour l'ensemble de la profession et pas seulement pour les 30 patrons pêcheurs touchés par la tempête Adrian. Des perturbations aujourd'hui dans les établissements secondaires de l'île, un peu partout, à Ajaccio et Bastia surtout, mais aussi à Lille-Rousse. On a vu des collèges et des lycées bloqués par des élèves. Des blocages partiels, précise encore le rectorat, en soutien au mouvement des Gilets jaunes. Un feu de palette a également été allumé devant le lycée Jean Nigoli à Bastia. Les suites de la tempête de vent d'hier, 600 clients sont toujours privés d'électricité à 7h, mais EDF promet de rétablir le courant dans 100% des foyers à 18h. EDF prévoit également qu'il ne reste à plus que 200 clients à réalimenter entre 14h et 18h. C'est la Castagniccia, le Fiumorbo, la Costa Verde et l'Altarocca et l'extrême sud qui sont plus particulièrement concernés. Et puis, autre conséquence du mauvais temps, le match du 8e tour de la Coupe de France qui n'a pas pu se jouer hier à Fouriagne entre le Sporting et Saint-Omer est finalement reporté à samedi prochain, 19h. Et puis, rappelons que ce soir aura lieu le tirage au sort des 32e de finale de cette Coupe de France avec cette fois l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Si le Sporting se qualifie samedi, il rejoindra le GFCA. Voilà, c'est la fin de ce flash. La poursuite dans quelques instants de la seconde partie du Club de la Presse avec pour invité Monseigneur Olivier de Germay, l'évêque de Corse.
Da Bougougna à Oletta, da Figari à Maginaggio, RCFM, insieme si moi.
RCFM, le Club de la Presse.
Deuxième partie du Club de